La Franque LR et LR Livre et Lecture, en partenariat avec la région Languedoc-Roussillon, vous propose de partir sur les traces de la presse ancienne et des auteurs de notre région au cours d'une série de 6 émissions exceptionnelles. Une heure de découverte et de curiosité à retrouver dès maintenant avec nos invités.
Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices des radios locales associatives de Languedoc-Roussillon. Je suis Marie-Hélène de Radio Bartas à Florac et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une émission consacrée aux actions de numérisation et de valorisation du patrimoine écrit. Des actions qui tournent autour du thème de la presse ancienne. Vous en saurez plus dans un petit instant. Le temps de vous dire que je suis accompagnée pour ce plateau de toute une équipe de 48 FM avec Corentin et Guillaume à la technique et Ludo qui m'accompagne sur l'animation. Bonjour Ludo.
Bonjour Marie-Hélène, bonjour à toutes et à tous.
Et vous dire également que nous sommes installés pour ce plateau dans la salle de l'Antirouille à Mende. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une émission collaborative qui vous est proposée par la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon, la FRANC-LR. Alors cette émission sera composée de plusieurs temps. Nous aurons en effet le plaisir de recevoir dans un instant Marie Depalais, auteure bien connue dans notre région, et nous écouterons Madame Sebelin, présidente de l'Association des Amis de la Bibliothèque, nous faire la lecture d'un feuilleton écrit par Marie Depalais dans le cadre de l'opération Chronique du Midi. On va en reparler. Vous pourrez également écouter un feuilleton enregistré toujours dans le cadre de cette opération. Nous aurons le témoignage de Monsieur Tessier de la Société des Arts et Lettres, de Yannick Pépin du service éducatif des archives de Lozère, un reportage réalisé aux archives départementales lors de la visite d'une classe, un reportage réalisé par Ludo qui est à côté de moi. Et nous vous réservons également une petite surprise. Mais tout de suite, nous allons commencer avec nos premiers invités pour cette première petite table ronde, avec Marie-Christine Chaze, présidente de la LR2L, Languedoc-Roussillon Livre et Lecture. Bonjour madame.
Bonjour madame. Bonjour à tous.
Voilà, Guy Saleil, qui est directeur de la bibliothèque municipale de Mende. Bonjour.
Bonjour à vous tous.
Et Benoît Léguédé, qui est directeur des archives départementales.
Bonjour à tous.
Alors, Madame Chaze, je rappelle donc que vous êtes présidente de Languedoc-Roussillon Livre et Lecture. Alors, pour commencer, est-ce que justement vous pouvez nous présenter un petit peu cette structure et puis nous dire un mot de cette opération pour laquelle on est ici rassemblés?
Oui. Alors, Languedoc-Roussillon Livre et Lecture a été créée fin 2007 suite à la suppression du Centre Régional des Lettres. Donc, ils ont à peu près les mêmes missions. Nos missions essentielles, c'est de travailler au plus près avec les acteurs de la chaîne du livre et surtout de valoriser, promouvoir l'écriture et la lecture auprès de différents publics, la lecture publique. Voilà, donc nous avons plusieurs chargés de mission. Ici présente Mélanie Marchand qui s'occupe du patrimoine et de la lecture publique. Puis nous avons une chargée de mission pour la vie littéraire, une chargée de mission pour l'édition et la librairie. Donc nous couvrons pratiquement et totalement toute la chaîne du livre. Alors, cette exposition, nous avons lancé, il y a eu la création en 2007 du pôle associé Languedoc-Roussillon, de la région Languedoc-Roussillon, pôle associé avec la BNF, la Bibliothèque nationale de France, le ministère de la Culture et de la Culture, la DRAC, donc via la DRAC, le réseau des médiathèques de l'agglomération à l'époque et Languedoc-Roussillon Livre Lecture, qui était l'opérateur de cette numérisation. Cette exposition, c'est l'aboutissement d'un grand chantier qui a débuté, donc, comme je vous disais, fin 2007, début 2008, jusqu'en 2012, où on a numérisé plus de 700 000 pages, soit 70 titres de presse ancienne, de 1786, de la fin du XVIIIe siècle, à 1944, où la presse était libre de droit. Alors, cette presse ancienne, et puis excusez-moi, il y a des établissements, des médiathèques, les archives départementales de la Lozère notamment, qui se sont associés à ce pôle, justement parce qu'ils possédaient un patrimoine littéraire considérable. Alors, pour l'anecdote, j'ai lu dans un de nos documents que les documents des archives départementales de la Lozère mis bout à bout représentaient une distance de 8 km 600. Vous imaginez, bravo, hein. Et parmi les établissements associés, c'est la seule précision en distance qui a été faite. Donc ça veut dire quand même que vous êtes sûrement loin devant les autres en distance de documents. Donc voilà. Donc et puis alors ça c'était la première campagne. La deuxième campagne a débuté en 2012 jusqu'en 2014 où là il me semble qu'il y a eu 120 000 pages numérisées avec la presse viticole, l'iconographie régionale et essentiellement la région. La numérisation, la conservation, mais la conservation, ce serait dommage qu'on en fasse un objet mort. Donc la question qui s'est posée après celle de la conservation, de la numérisation, donc de la conservation, c'était que va-t-on en faire, comment valoriser ce patrimoine, comment le transmettre. Et là, le groupe de pilotage, la commission de réflexion sur ce patrimoine, a eu la merveilleuse idée d'imaginer cette exposition virtuelle, qui se décline aussi en exposition physique que nous inaugurerons tout à l'heure à la médiathèque. Et donc, ça a été, alors, dans un souci de faire connaître, de faire participer, un concept très innovant, interactif, et ce qui nous intéresse le plus, parce que c'est aussi l'histoire, et on est toujours héritiers de notre histoire, c'est de faire partager tous ces documents et de les faire participer pour mieux s'approprier cette histoire-là.
Pourquoi la presse ancienne ?
Ben parce qu'il y avait énormément, c'est un choix qui a été fait, il fallait bien à un moment faire un choix, et la presse ancienne, il nous semblait que c'était, d'abord, elle relatait les événements locaux, régionaux, nationaux, mondiaux, et qui révélaient aussi le caractère d'une société du fait du 19e siècle au milieu du 20e siècle.
Parce que quelle date vous avez choisi, Nico ? Est-ce qu'il y a des
périodes ? Il y a eu un balayage de toutes les périodes. D'accord. Et là, pour cette exposition, justement, on a choisi des faits divers. Alors, d'accord. Autre originalité du projet, nous travaillons donc, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, avec tous les acteurs de la chaîne du livre, et nous essayons surtout de valoriser, c'est vraiment notre fil rouge, c'est l'interprofessionnalité. Et alors, on a pensé qu'il serait intéressant, et Marie Depalais en a été une de nos actrices, il serait intéressant de porter un regard contemporain sur cette écriture et sur le récit de faits divers, de presse ancienne, voire de publicité, d'affiches. Donc, nous avons sollicité 23 auteurs et 9 illustrateurs qui ont réagi sur cette presse ancienne. Alors, quand même, on voulait aussi que ce patrimoine reste réel. Donc, nous avons demandé dans le cahier des charges à 8 auteurs, me semble-t-il, d'écrire de façon collective 2 épisodes avec un personnage qui se prénomme Camille, qui pouvait être jeune, vieux, fille, garçon, et dans un lieu bien précis de la région. Voilà, donc c'est très intéressant, et chaque auteur donc a réagi avec son écriture, son imaginaire, et vraiment on peut dire qu'on a plaisir à lire toutes ces chroniques. Il y a aussi donc une écriture individuelle de 13 ou 15 auteurs qui ont écrit des épisodes en réaction à un fait divers.
Avoir tout à l'heure deux exemples de ces feuilletons donc, que l'on retrouve sur un site internet. On en aura bien entendu le site tout à l'heure. Vous parliez tout à l'heure des différents acteurs du livre, et en effet nous avons déjà pas mal dans la salle ici, et je voulais me demander à monsieur Saleil, qui est donc le directeur de la bibliothèque de Mende, comment s'est passé cette prise de contact, ce partenariat avec l'R2L, et pourquoi vous avez souhaité participer à cette opération. Donc, je rajoute, on en reparlera bien sûr, que vous accueillez à partir d'aujourd'hui, enfin, il y a le vernissage aujourd'hui, plus exactement, cette fameuse exposition donc, physique donc, de cette presse ancienne.
Alors tout d'abord, je voulais remercier bien sûr tous les intervenants dans cette émission. Je voulais en profiter également pour excuser Jean-François Berenguel, qui est l'adjoint à la culture à la ville de Mende, retenu par ailleurs pour ses obligations professionnelles. Donc il sera absent du plateau. Je voulais dire également merci à Jean-Michel Lebar, mon collègue, qui a mis à notre disposition l'antirouille pour cette émission-là. Eh bien, à la bibliothèque municipale Lamartine, médiathèque maintenant, nous sommes heureux de ce partenariat parce que ça permet toujours de s'ouvrir et de faire connaître les petits trésors qui dorment dans les caves de l'un ou de l'autre et mettre un produit en commun. Maintenant, réalisé de façon individuelle, ça limite un petit peu l'impact et l'utilisation, alors que le produit utilisé par plusieurs énergies comme ceci, effectivement, on arrive à quelque chose de tout à fait positif et remarquable.
Donc, comment ça s'est passé, ce début de partenariat ce...
Alors, je vous sens inquiète là-dessus, oui. Mais ça s'est très, très bien passé, non, je vous rassure. Je vous rassure, nous avions autour de nous des gens de référence, bien sûr, Madame Chaz, que je salue, et je souhaite la bienvenue sur Mende, puisqu'elle me demandait, la cathédrale, c'est loin, mais non, vous voyez, c'est tout près, les clochers dominent toute la ville. Ça s'est très bien passé, d'autant plus que c'est ma collègue qui avait mené l'opération de concert avec les archives départementales. J'en profite pour saluer donc Monsieur Léguedé et Marie-Christine Juge également, puisqu'elle a énormément participé sur cette opération-là. Donc, en fait, l'idée, c'était de pouvoir ressortir des cartons cette presse ancienne. Mais les collections étant peut-être incomplètes d'un côté ou de l'autre, le partenariat a été bénéfique parce que ça a permis d'abouter les trésors des archives départementales avec celles de la bibliothèque municipale de Lamartine.
C'est un partenariat donc avec Livret Lecture Languedoc-Roussillon. Ça n'est point fort de Livret Lecture Languedoc-Roussillon, tous ces partenariats que vous avez réussi à nouer sur cette région.
Oui, bien sûr. Et c'est important que nous occupions tout le terrain régional, si je puis dire. Et maintenant, ça va être encore plus dur, et agréable à la fois, pour investir et occuper tout le terrain de la grande région. Écoutez, on essaie toujours de travailler dans un souci d'équité. Alors, c'est vrai que Mende, c'est pas à côté de Montpellier, où Languedoc-Roussillon Livre Lecture a son siège, mais nous sommes très attentifs à tous les acteurs de la chaîne libre de toute la région, sans distinction et sans inégalité.
Alors moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que j'ai apprécié ce partenariat-là parce qu'aujourd'hui, la numérisation, c'est un outil qui est tout à fait contemporain, indispensable à l'utilisation de tous ces documents, puisque plus adapté justement à cette grande communication. Et comprenez bien que si les moyens nosériens avaient été mobilisés sur cette opération-là, on n'en avait certainement pas la possibilité. Ça coûte beaucoup trop cher. Donc effectivement, avec des structures pilotes averties dans ce domaine-là, c'était vraiment un super dessert qui nous arrivait sur la table. Voilà.
Alors, Monsieur Léguédé, vous êtes le troisième partenaire, on peut dire, de cette opération, donc directeur des archives départementales de la Lozère. En quoi les archives départementales ont-elles été concernées par ce projet ?
Eh bien, il entre dans les missions des archives, parmi les quatre missions principales des archives départementales, à savoir le classement, la collecte. Il y a ces deux missions qui sont la conservation et la communication. Et c'est vrai que ce qui nous a été proposé par Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, à savoir la numérisation de la presse ancienne, rentrait dans deux de nos principales missions, à savoir la conservation de la presse ancienne et aussi la communication. Il faut savoir que les journaux, de manière générale, et y compris les journaux de maintenant, sont des supports très très fragiles. Ils sont le papier généralement de mauvaise qualité, l'encre aussi, et ce sont des supports qui sont souvent manipulés, qui sont souvent consultés dans nos salles de lecture, et qui, au fil du temps, le papier jaunit, les pages s'ébrèchent, et ça finit par tomber en morceaux. Donc au bout d'un moment, en salle de lecture, on est obligé de retirer ces documents-là, parce qu'ils deviennent inconsultables. Et c'est vrai que la numérisation, pour nous, est très importante, parce qu'elle répond à ce double besoin de mettre à disposition, et aussi de conserver les originaux. Et la démarche donc de Languedoc-Roussillon Livre et Lecture était pour nous, effectivement, très intéressante, et on s'est tout de suite, je crois, intégré dans le projet, et on a pu s'appuyer à la fois sur les compétences en interne de Christine Juge, qui a beaucoup travaillé sur ce dossier-là, et sur les compétences de montage juridique, financier, technique, etc., de LR2L. Donc c'est une opération, disons, de collaboration aussi avec les archives, avec la bibliothèque municipale de Mende, une très belle opération qui permet de mettre en valeur ce patrimoine écrit qui, s'il n'était pas numérisé, tôt ou tard finit par complètement disparaître.
Finalement, c'est peut-être déjà le cas, je ne sais pas. Cette presse ancienne, elle est encore disponible et consultable aux archives, ou on va vers uniquement une consultation sur ordinateur ?
Alors, c'est la numérisation de manière générale, elle est faite aussi donc pour stopper les dégradations sur les documents originaux. Donc, comme pour l'état civil, comme pour les registres matricules que nous avons mis en ligne il n'y a pas si longtemps, les documents qui ont été numérisés, donc les deux titres, donc le journal de la Lozère et le courrier de la Lozère, seront, une fois qu'ils seront mis en ligne sur le portail de la région, seront effectivement retirés de la consultation en salle de lecture. Et donc la consultation sera uniquement disponible donc de chez soi ou en salle de lecture sur les postes informatiques dédiés. Je précise aussi que cette numérisation n'est pas une numérisation complètement, je dirais, à l'identique. C'est aussi une numérisation qui a permis de dossieriser les documents. C'est-à-dire que ça permet désormais de faire des recherches plein texte, ce qui est complètement inenvisageable avec, je dirais, une lecture normale. Quand on cherche un article en particulier dans n'importe quel article de journal, par exemple de Midi Libre ou de la Lozère Nouvelle, eh bien, il faut feuilleter le journal en espérant trouver le renseignement, le village qui nous intéresse, le fait divers que l'on recherche, alors que avec l'austérisation et un moteur de recherche dédié, on peut facilement trouver n'importe quel fait divers, que ça concerne Mende, la cathédrale, un fait divers croustillant, un meurtre, le prix des denrées à telle ou telle époque, une visite ministérielle. L'austérisation permet, disons, des recherches bien plus simples et bien plus complètes qu'une simple lecture d'un journal papier.
Par contre, c'est un travail énorme alors à faire en amont pour rentrer tous ces mots-clés.
Il y a eu un
travail. Oui, allez-y, madame.
Il y a eu un travail énorme, et je peux dire que ça n'a pas été fait du point A au point B. Hein, il y a eu des moments, non pas de crise, mais des moments d'angoisse. Non, ça a été. Lorsque j'ai été présidente, donc en 2010, déjà le travail de numérisation avait commencé, mais il était loin d'être achevé. Donc, et je puis vous dire que c'était quand même difficile. Oui, l'austérisation, parce que les pratiques de lecture aussi ont beaucoup changé. Hein. Bon, moi, je fais partie aussi d'une autre génération. Et c'est vrai que l'austérisation, pour moi, je dis, qu'est-ce que c'est ce mot nouveau? Bon, et je pense que pour les personnes peut-être d'une autre génération, il serait bien de préciser ce qu'est l'austérisation, parce que...
Vous avez tout à fait raison. Effectivement, donc pour parler en français, l'austérisation, donc c'est la reconnaissance optique de caractère. Donc ça permet dans une image texte, en fait, de faire des recherches sur les mots de ces textes-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas c'est pas simplement une image, c'est que l'image, disons, des différents mots sont transformées et permettent de rechercher dans les mots du texte, tout simplement.
Voilà. Très bien. Peut-être pour terminer, vous avez parlé de deux titres lozériens, le journal de la Lozère et le courrier de la Lozère. Ça a été un choix. Il y avait d'autres journaux. C'est des journaux qui ont couvert une période historique importante.
Oui, alors, quand on fait la numérisation, on se pose toujours les choix. Qu'est-ce qu'on numérise? Pourquoi est-ce qu'on numérise? Quels sont les critères qui vont faire qu'on va numériser tel ou tel titre? Je précise que je n'étais pas arrivé quand les titres ont été choisis, mais le journal de la Lozère et le courrier de la Lozère avaient cette particularité qu'ils couvrent une période assez longue. Donc le journal de la Lozère, c'est de 1803 à 1863, et le courrier de la Lozère, c'est de 1868 à 1917. Donc ce sont des périodes chronologiques assez importantes qui couvrent donc l'une plutôt le, on va dire, la première moitié du 19e et l'autre la deuxième moitié avec le, une partie de la guerre, la première guerre mondiale. Et puis ce sont aussi, c'était aussi, je pense, un très bon galop d'essai pour voir ce que vous pouvez faire sur la numérisation de la presse, sachant que ces deux titres représentent déjà 30 000 pages. Nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment poursuivre au cours de la phase 5 la numérisation d'autres titres. Donc on verra effectivement ce qu'il est possible de faire autour de ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fini. Il reste des titres de presse à numériser. Quelque part, la numérisation, c'est un puissant fond. On commence et on n'arrête jamais. Ouais.
Alors peut-être pour terminer, Madame Chaz, Monsieur Saleil ou l'autre, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans l'exposition physique que les Bandois vont pouvoir venir voir, ou les Lozériens d'ailleurs?
Alors, au sein même de la bibliothèque municipale, donc médiathèque, effectivement, il y a cette exposition qui retrace un petit peu toutes ces chroniques-là. Mais les tableaux que vous allez voir sont équipés également d'un QR, d'un code-barre, une nouvelle formule que vous pourrez très bien flasher. Et ceci vous amène immédiatement sur le site de Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, ce qui vous ouvre vraiment les recherches dans tous les domaines. Vous pourrez rapidement accéder aux différentes chroniques, aux feuilletons, etc. Et voilà, c'est un petit peu tout cet ensemble. Alors, il y a globalement une vingtaine de panneaux publicitaires, plus autant de tableaux. C'est un tout, et ça se trouve donc au troisième étage. La visite est gratuite, bien entendu. Le vernissage, c'est ce soir à 18h30. Et juste avant, on aura le plaisir d'accueillir, j'en profite pour la saluer et la féliciter, bien sûr, Madame Marie Lepalais, donc, parce que avec émotion, on vient de découvrir son dernier écrit, son dernier ouvrage. Elle le dédicacera de 18h à 18h30.
Eh bien, très bien, vous faites une belle transition, puisque nous allons passer justement maintenant à la lecture par Madame Sebelin, qui est présidente de l'Association des Amis de la Bibliothèque Municipale de Mende, donc d'un feuilleton écrit par Madame de Palais. Merci beaucoup à tous les trois pour nous avoir apporté toutes ces précisions sur cette opération. Donc, bonjour Madame Sebelin, donc on va vous écouter lire ce texte qui a été écrit par Madame de Palais, puis nous lui demanderons un petit peu comment tout ça s'est passé. Nous vous écoutons.
Voilà, alors il s'agit de la chronique 14, 1, Le Camp, par Marie de Palais, écrit le 23 avril 2015. En janvier 1939, fut ouvert à Rieucros, en Lozère, dans les environs de Mende, le premier camp de concentration français. Il était destiné à recevoir les étrangers indésirables. Le camp avait été créé par le gouvernement de Vichy. En octobre 1939, il fut réservé aux femmes. On compta parmi elles des Allemandes, des Polonaises, des Tchèques et beaucoup d'Espagnols rescapés de la guerre d'Espagne. Il y avait aussi parmi elles des Juives et des communistes françaises. En 1942, le camp fut transféré dans le sud. Le soleil brillait en ce matin de mai et le camp paraissait en effervescence. C'était la foire du 20 mai et les filles du camp avaient été autorisées par le maire de Mende, Henri Bourillon, à se rendre en ville vendre leurs productions. Elles étaient une trentaine enfermées dans ce camp, cernées par des montagnes, à n'apercevoir qu'un bout de ciel bleu quand les nuages voulaient bien le permettre. Pourquoi étaient-elles là? Elles n'avaient rien fait pourtant, et leur incarcération n'était qu'un des aléas de la politique, et elles en étaient les victimes. Camille, qui était au camp depuis 3 mois, se réjouissait de cette sortie, la première depuis son incarcération. Elle s'était préparée avec soin. Elle avait enfilé ses bas de soie, qu'elle ne portait qu'en de rares occasions, et passé son tailleur beige qui lui donnait, pensait-elle, l'air d'une dame. Ses escarpins n'étaient pas tout à fait à la hauteur, mais elle n'avait pas d'autres chaussures. Et pour compléter le tout, elle avait posé sur ses cheveux blonds un chapeau cloche du plus bel effet. Tant pis si la mode en était un peu passée. Il fallait vraiment qu'elle soit élégante pour aller présenter sa peinture. Elle regarda avec envie sa trousse de maquillage et le rouge à lèvres qui aurait ajouté un peu de couleur à son visage si pâle. Mais elle n'osa pas s'en servir, de peur de passer pour une gourgandine. Non, il fallait rester la jeune fille sage qui ne vit que pour la peinture. Car Camille était peintre. Non pas de ces peintres modernes qui peignent des toiles incompréhensibles. Non, elle en était restée à l'impressionnisme et signée des paysages romantiques qui faisaient l'admiration des autres détenus. La route lui parut longue jusqu'à la place du foirail où quelques tables les attendaient. Toutes les filles se mirent à déballer qui, des dentelles, des napperons, de petits objets en bois, des rubans, des broderies. Camille choisit un coin près du mur et commença à installer ses paysages qui, s'ils n'étaient pas aussi célèbres que ceux de Monet, lui paraissaient presque aussi beaux. Les passants défilaient, certains s'arrêtaient et s'informaient. « Vous venez d'où ?»« Du camp de Rieucros. » Certains se détournaient, mais d'autres paraissaient intéressés. Une petite vieille femme ajusta son lorgnon et examina attentivement les peintures. « C'est vous qui avez peint ça ?»«
Oui, madame. »
« Vous avez du talent. Vos peintures me rappellent des œuvres que j'avais adorées autrefois à Paris, il y a bien longtemps. Ce paysage d'automne a quelque chose de mélancolique qui me plaît. Combien coûte-t-il ? » Camille en demanda 5 francs, ne sachant si c'était trop cher. La vieille femme sortit un antique porte-monnaie et lui donna une belle pièce toute neuve. « Merci, madame, » fit Camille, en lui enveloppant le tableau dans un papier. « Comment avez-vous atterri dans ce camp ? » demanda-t-elle en fixant la jeune fille. « Je ne sais, madame. Je suis d'origine espagnole et en tant qu'étrangère, je dois vivre dans un camp. Ah, ma petite demoiselle, nous vivons une drôle de période. C'est très bien que vous veniez en ville. » J'espère qu'on vous y verra souvent et continuez à peindre. N'arrêtez pas surtout. Vous avez un réel talent. C'est un expert qui vous le dit. Elle s'éloigna, appuyée sur sa canne, et Camille la suivit des yeux, enviant sa liberté. Mais elle n'eut pas le temps de s'attarder. D'autres clients survenaient, voulaient discuter avec elle. Certaines admiraient ses peintures, d'autres les critiquaient, mais tous étaient intéressés. Toute la matinée, elle parla peinture et art avec des gens intéressés. Les Mandois paraissaient enchantés de connaître enfin ces recluses dont on discutait à mots couverts sans savoir qui étaient ces femmes et ce qu'elles faisaient. Toutes les occupantes du camp avaient trouvé des acquéreurs et quand elles partirent, pour retrouver leur quotidien misérable. Elles avaient passé une agréable journée avec une population qu'elles croyaient hostile et qui les avait adoptées dès le premier contact. Camille se sentait apaisée. Les quelques piécettes qui tintaient dans sa poche allaient améliorer son ordinaire et elle avait repris espoir en la bonté humaine.
Merci beaucoup, Madame Sabelin, pour cette lecture dans un texte.
Merci.
D'un texte écrit par Marie de Palais, que nous avons le plaisir également d'avoir autour de la table. On va peut-être lui approcher un micro. Voilà, très bien. Alors, Marie de Palais, vous êtes bien connue dans la région, puisque vous êtes une mandoise, vous êtes connue pour vos nombreux romans. Mais là, nous venons d'écouter donc un extrait d'un feuilleton que vous avez écrit pour les Chroniques retrouvées du Midi, donc dans le cadre de cette opération sur la presse ancienne. Donc, un feuilleton sur le camp de Rieucros, on l'a entendu. Quelle était la demande de Languedoc-Roussillon Livre et Lecture? Pourquoi l'avez-vous acceptée?
Je l'ai acceptée parce que, après tout, c'est un peu mon rôle d'écrire et ça m'a plu de raconter une histoire qui se passait chez nous. Et au début, je me suis un peu trompée parce que j'ai cru qu'il fallait inventer une histoire et j'ai inventé quelque chose. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est une histoire d'une fille qui partait d'ici, qui descendait à Uzès, je crois. Et alors, on m'a dit, mais non, il faut partir d'un fait réel. Et j'ai dit, mais moi, je ne connais pas de fait réel, surtout à cette époque-là. Et alors, on m'a dit, il y a peut-être le camp de Rieucros. Ah, ben, j'ai dit, oui, je connais, donc je peux écrire une nouvelle. C'est ce que j'ai fait.
Vous l'avez travaillé comme vous travaillez habituellement vos romans, ou pas du tout? Non, vous avez...
Pareil.
Vous êtes documenté pour ce feuilleton, ou finalement vous connaissiez l'histoire?
Je connaissais un peu. J'avais été à des conférences sur le sujet, et j'ai un livre que j'avais acheté, je crois, à quelqu'un qui avait fait une conférence qui est très complet sur le camp de Rieucros. Et je me suis servi de ça.
Est-ce que dans votre écriture, de façon générale, vous vous appuyez sur la presse régionale pour votre documentation, ou c'était un peu une nouveauté là?
Je ne sais pas ce que vous entendez par presse régionale. Non, je suis
la
quand même
ancienne.
Connue pour les journaux d'ici, Midi Libre, Les Heures Nouvelles. Mais bon, je ne suis pas encore... Je suis passée une fois à la télévision quand même, sur France 3, à Languedoc-Roussillon.
Mais est-ce qu'il vous est arrivé de vous inspirer de la presse ancienne pour vos ouvrages?
Oui et non. Mes histoires, quand elle s'accroche à l'histoire, la grande histoire, je suis bien obligée de me renseigner. Donc, pour les guerres, par exemple, quand il y a des guerres, il me faut bien chercher les choses, parce que le reste, on peut le changer, mais l'histoire, elle ne change pas. Donc, il faut faire très attention avec de tout respecter.
Le camp de Rieucros, c'est une histoire forte de Lozère. Vous venez nous expliquer, c'est un peu tombé par hasard finalement. On vous a un peu soufflé cette idée de raconter une histoire sur...
Oui, c'est, on me l'a soufflé. Parce que moi, je voyais pas du tout ce qu'il voulait. Et je comprenais pas. Je disais, mais il n'y a rien de particulier à Lozère. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, ben oui, en effet, c'est bien quelque chose de terrible qui est arrivé, d'enfermer des femmes qui n'avaient rien fait, après tout.
Auparavant, vous n'avez jamais parlé dans vos ouvrages de ce camp-là?
Si, je crois que je l'ai mentionné dans quelques ouvrages. Je ne me rappelle plus lesquels, mais je sais que je l'ai mentionné, oui.
Et finalement, ça ne vous donne pas envie de pousser un peu plus loin dans un prochain roman?
Eh bien si, l'autre fois on en a discuté avec... Quelqu'un était venu à la maison et on a parlé du camp de Rieucros. Et justement, j'ai dit la prochaine fois, je pourrais peut-être... à écrire quelque chose sur ce cas, fait avec une héroïne qui est... Il y a quelqu'un qui a écrit, je ne me rappelle plus trop qui, mais c'est une femme qui a imaginé une histoire d'une... Je ne sais pas comment elle s'appelle.
Oui, j'ai lu ce livre. Et...
Reprenez.
Voilà. Alors, ce livre, c'est Justine, une oubliée de Rieucros. Voilà. Et c'est moi qui fais la préface de son livre, d'ailleurs, puisqu'il s'est inspiré de la vie de Cali. Et notamment aussi de Arlette Baena, qui est une voisine. Elle habite à Auteuil, en Ardèche, donc. Et effectivement, elle a été en résidence au camp de Rieucros.
Eh bien, merci beaucoup pour cette précision, en effet. Merci à Marie de Ballet d'avoir répondu à ces quelques questions. Alors, je rappelle merci à nos auditeurs que vous écoutez une émission réalisée conjointement par 48FM et Radio Barthas. Une émission réalisée en partenariat avec la FranLR et la LR2L, et que nous parlons donc de l'opération de numérisation et de valorisation de la presse ancienne. Et donc certains de ces feuilletons dont on vient d'en entendre un extrait, certains donc des feuilletons écrits dans le cadre de cette opération ont été enregistrés par des acteurs pour en faire des feuilletons radiophoniques. Et donc, eh bien, comme on est à la radio, on va vous proposer tout de suite d'écouter un épisode d'un de ces feuilletons. C'est le 5e épisode de Sous les arceaux.
De Gustave Thérobe, Sous les arceaux, 5e épisode. Pour fêter le Mardi Gras, le Gros du Poivre donna un grand bal travesti. Toute la société élégante de Saint-Agricole avait été invitée. Du Poivre était déguisé en turc, Papavoine en magicien, Chopinard en mousquetaire, Fouinard en diable, La Roublardière en anglais, Joli Cœur en espagnol, Maître Coquardeau en paillasse, Le Médecin en pierrot, les dames étaient en marquise, pirette, domino, etc. Mademoiselle Angélina du Poivre était ravissante sous son joli costume de bergère Louis XV. Mademoiselle Anna Coquardeau, la fille du notaire, portait avec grâce un riche domino rose. La fête fut très belle, elle dura jusqu'au jour. Arthur ouvrit le bal avec la demoiselle de la maison. Mais, pour éloigner tout soupçon, il dansa toute la nuit avec mademoiselle Anna. Vers le matin, il invita Angelina pour une valse. Tout en valsant, la poétique et amoureuse jeune fille lui disait « Avouez franchement à Arthur que vous avez une préférence pour mademoiselle Coquardo. Oh, ma chère Angelina, c'est vous seule que j'aime. Anna est affreusement laide et je ne comprends pas que vous puissiez lui faire la cour à cette mijaurée lorsque je suis là. Vous vous méprenez sur mes sentiments, s'empressa de dire le beau jeune homme. C'est pour ne pas vous compromettre que j'ai dansé si souvent avec Anna, car vous savez, cher ange, combien je vous aime. Moi aussi, cher Arthur, je vous aime trop, beaucoup, trop, et il faut que je vous le dise, je suis jalouse, très jalouse. Je ne veux plus que vous me quittiez jusqu'à la fin du bal. Je vous obéirai, belle Angelina. Mais pourquoi nous aimer ainsi? Pourquoi nous aimer, me dites-vous? Est-ce que l'amour se commande? Ah, sans vous, cher Arthur, la vie serait insupportable pour moi. Hélas, nous sommes condamnés à ne jamais vivre ensemble. Et pourquoi? Parce que votre père ne voudra pas consentir à nous marier. Faites-lui une demande, essayez de le décider. Je n'oserai jamais. Du reste, ce serait inutile. Je suis sûre, d'avance, qu'il refuserait. Il m'a dit souvent qu'il voulait un gendre très riche. Ah, je suis bien malheureuse, dit alors avec tristesse la belle jeune fille qui étouffa un gros soupir. Eh bien, puisque vous m'aimez, il faut me le prouver. Que faut-il que je fasse? Écoutez. Il nous reste un seul moyen à employer pour ne pas être séparés. Lequel? C'est de partir ensemble. Voulez-vous consentir à vous laisser enlever? Oui, dit Angelina avec amour. Fuyons. Oui, fuyons. S'il le faut, cher Arthur, j'irai avec vous jusqu'au bout du monde. Nous partirons aujourd'hui même. Je vais m'occuper de préparer notre départ. Aussitôt que tout sera prêt, ma belle Angelina, je vous préviendrai par un billet de l'heure de notre fuite.
Dans la journée qui suivit le bal masqué, Arthur rencontra le Gros du Poivre au grand café des Arceaux. Il le prit à part et lui dit « Mon bon du Poivre, je suis votre ami et je viens vous demander de me rendre un service. Avec plaisir, Arthur, de quoi s'agit-il ? Je suis amoureux de la fille du notaire, mais le vieux Coquardo me l'a refusé en mariage. J'ai donc songé à l'enlever. » Que pensez-vous de mon projet ? Parfait, mon cher, parfait. J'aime ça, moi, un enlèvement. Ah, c'est tout à fait régence, palsambleu. Malheureusement, je me trouve sans argent. Je vous en donnerai, mon ami. J'aime ce genre d'aventure et je ne suis pas fâché de faire enrager ce vieil imbécile de Coquardo. Ah, pour le coup, ce serait une bonne farce. Combien vous faut-il ? 500 francs ? Vous les aurez, mon cher. Venez chez moi ce soir, je vous remettrai cette somme. Vous êtes un brave garçon, Arthur. Je vous estime beaucoup et je suis heureux de pouvoir vous être agréable. Merci, mon bon du Poivre. Oh, merci. Vous me remercierez plus tard. Je suis tout à votre disposition. Si vous voulez ma voiture, volontiers. Où faudra-t-il aller vous prendre ? Devant la maison du notaire, à minuit précis. C'est entendu. On y sera. Je donnerai mes ordres à mon cocher. Merci, mon bon du Poivre, à ce soir. Arthur, fou de joie et plein d'amour, rentra chez lui et écrivit. Chère Angelina, à minuit, je vous attendrai sous les arceaux. Tout est prêt pour notre départ. Arthur. Dans la soirée, il alla chez du Poivre, qui le reçut dans son cabinet de travail et lui donna la somme promise. Ils passèrent ensuite dans le salon où madame du Poivre dormait au coin du feu, tandis que sa charmante fille lisait un roman. Après une foule de compliments d'usage, de félicitations sur la magnifique fête de la nuit précédente, la conversation roula sur des banalités et Arthur ne tarda pas à parler de se retirer. C'était là le moment difficile. Il s'agissait de remettre adroitement à Angelina le billet annoncé. En s'en allant, tout en faisant de grandes révérences, Arthur renversa une chaise, Angelina se précipita avec lui pour la ramasser, leurs mains se rencontrèrent, le billet parvint à son adresse.
Minuit sonnait à l'horloge de Saint-Agricole. La voiture de Dupoivre stationnait devant la maison du notaire Coquardeau. Arthur, coiffé d'un feutre à large bord, enveloppé dans un long manteau, attendait sous les arceaux près du logis d'Angélina. La porte s'ouvrit. Une silhouette féminine passa près de lui. « Est-ce vous, Arthur ?» dit une petite voix bien douce. « Oui, c'est moi, » répondit le beau jeune homme, qui prit Angélina par la taille et qui, avec la rapidité de l'éclair, l'enleva de terre pour la transporter sur les coussins moelleux de la voiture. Avant de prendre place à côté d'elle, Arthur dit au cocher en lui mettant un pistolet sur la gorge « Si tu me trahis, je te brûlerai la cervelle. Nous allons à la ville de 15 kilomètres environ à parcourir. Si dans une heure nous sommes arrivés, il y a 100 francs pour toi. C'est compris, » répondit en tremblant le cocher, homme discret et très amateur de bon pourboire. Arthur monta dans la voiture qui partit doucement. Une fois sur la grande route, le cocher fouetta ses chevaux, deux vigoureuses bêtes qui prirent le galop. Les 15 kilomètres furent rapidement parcourus. À 1 heure du matin, Arthur et Angélina étaient à la ville de... déjà bien installés dans une chambre confortable de l'hôtel des Arcades. Le cocher, ayant touché ses 100 francs, mit ses chevaux à l'écurie de l'hôtel et leur fit donner double ration d'avoine qu'ils avaient bien gagnée. Il passa ensuite à la cuisine où il se fit servir un copieux repas et il but de nombreuses rasades à la santé du jeune couple amoureux. La voiture de Dupoivre fut de retour à Saint-Agricole à la pointe du jour. Le cocher était porteur d'une lettre pour son maître. En lisant cette terrible missive, le gros Dupoivre fut sur le point d'avoir une attaque. Il finit par se calmer en disant « Arthur m'a bien trompé, c'est un peu fort tout de même d'être joué de la sorte. Après tout, c'est un brave garçon. Angélina sera heureuse avec lui. » Il courut après les fugitifs qu'il retrouva à l'hôtel des Arcades. Il les pardonna et ils revinrent ensemble au pays. Cet enlèvement fit beaucoup de bruit, on en parla longtemps à Saint-Agricole. « C'est bien fait, disait-on. Il n'est pas à plaindre de ce gros Dupoivre. Ça lui apprendra à se moquer des autres. »
Les bans furent publiés, Arthur et Angélina furent unis, leur mariage fut célébré sans éclat. Quelque temps après, Mademoiselle Anna se maria avec un jeune étranger qui prit l'étude du vieux Coquardeau, la Roublardière épousa Louison, Madame Dupif eut la douleur de voir mourir son petit chien chéri, Madame Belleuil perdit son chat, Dupoivre, Papavoine, Chopinard et autres allèrent toujours prendre leur fin moka au café des époux Malbrou, la jeunesse de Saint-Agricole continua à se donner rendez-vous sous les arceaux.
Fin.
Voilà, c'était donc le 5e épisode du feuilleton Sous les arceaux, un feuilleton qui a été diffusé dans le courrier d'Uzès en 1880, et c'est même l'épisode du 11 janvier 1880. Voilà, nous recevons maintenant autour de notre table Monsieur Tessier, que j'aperçois. Voilà, bonjour Monsieur Tessier.
Oui,
vous
bonjour.
Êtes membre de la Société des Arts et Lettres et nous souhaiterions savoir, avoir votre témoignage sur l'intérêt de l'utilisation des fonds documentaires pour vos recherches.
Alors c'est évidemment très important pour nous, puisque si on n'avait pas ces fonds de recherche, bien notre activité serait quand même relativement réduite. Personnellement, j'utilise surtout, depuis qu'on a accès à la numérisation des documents, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même assez extraordinaire, parce que ça nous fait gagner énormément de temps, énormément d'argent aussi, parce qu'autrefois il fallait faire des courriers, il fallait écrire, les réponses n'étaient pas toujours celles qu'on attendait, les gens ne se précipitaient pas pour abonder dans votre sens. Donc, je ne peux que me réjouir de la numérisation de tous ces documents. Monsieur le directeur des archives, que je connais un petit peu maintenant, mais j'avais fréquenté votre établissement avant votre arrivée, où encore c'était pas numérisé, et j'ai des souvenirs de salles de lecture qui étaient même passablement encombrées, et c'est aujourd'hui beaucoup plus large. Voilà, donc, je tiens à préciser qu'en ce qui concerne la Société des Lettres, je ne suis que membre de la Société des Lettres, je ne suis pas mandaté pour la représenter, bien sûr. Je fais également partie du Centre d'études et de recherche, qui sont deux sociétés mandoises qui grattent un peu partout. Voilà, je suis surtout axé, en ce qui me concerne, sur des recherches à caractère militaire, concernant le passé militaire de la Lozère, et on a eu beaucoup à faire avec le centenaire de la guerre de 14. Voilà, là aussi, la numérisation a été quelque chose de très intéressant et de très important. Je travaille un peu sur les départements voisins, puisque nous sommes une association qui gère également l'Aveyron. Et donc, là aussi, on trouve quand même pas mal de résultats et de possibilités.
Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel type de documents vous faites vos recherches et est-ce que justement la presse ancienne vous l'utilisez?
La presse ancienne, on a plutôt cherché sur la presse nationale, puisqu'on est remonté au début de la guerre de 14, en particulier en ce qui concerne l'épopée du colonel Lamolle, qui était le colonel du régiment de Mende, et où il y a eu des articles dans Le Matin, à l'époque, qui ont incendié les midis, qui étaient classés dans les catégories des trouillards, des feignants, etc., ce qui a amené Le Matin à être brûlé en place publique. Le ministre Messini a été obligé de démissionner, enfin, c'est même si son copain était le directeur du Matin. Voilà, donc c'est à ce niveau-là qu'on a pu retrouver des épisodes assez quand même croustillants, qui sont pas encore tout à fait accessibles malgré ce qu'on peut dire sur la liberté de l'accès aux archives. C'est quand même encore certains documents qui sont
un peu d'omerta.
Voilà. Non, c'est plus du secret défense, on n'a plus d'intérêt à ce côté-là. Ouais. Mais il y a une certaine omerta sur les journalistes du moment qui avaient pris des partis qui n'avaient pas enchanté, évidemment, les midis. Les gens du midi, c'est le 16e corps d'armée qui était passé pour des poltrons et des. Parce qu'ils avaient pris une pâtée mémorable, évidemment, mais ça, c'était pas tout à fait de leur faute. Hein.
Du coup, cette numérisation, ça vous permet de travailler de chez vous ?
Ça me permet de travailler de chez moi. Ça évite, donc je vous dis, des courriers assez importants. On est quelquefois obligé de se déplacer parce que malheureusement, tout n'est pas numérisé et tous les départements, toutes les archives départementales ne sont pas en ligne. Le Gard en particulier, notre voisin immédiat, traîne les pieds. Mais bon.
Heureusement que la Lozère est en avance.
J'espère que nous y arriverons. En tout cas, c'est un grand secours pour tous les gens qui font des recherches, je pense, pas spécialement pour nous.
Ça vous aliène pas du coup de se dire, je peux travailler n'importe quand, donc je m'arrête jamais?
Mais vous savez, quand on est à la retraite, on travaille plus qu'avant.
Et oui, c'est
et
pour
donc
ça
m'arrive même des fois, grâce à Internet, qui lui n'a pas d'heure de fermeture, à 4h du matin, si une idée vient à germer, je vais chercher et je note et puis je reprends après.
Du coup, voilà. On parlait de production. Ces productions, ce sont quoi? Des expositions? Ce sont des livres, des conférences?
Non, ce sont essentiellement des expositions. Des expositions, des conférences, c'est un grand mot, des causeries. Voilà.
Vous avez pu vous rendre sur le site de LR2L, de cette presse régionale, pour avoir des informations?
J'ai commencé, oui. Ce n'est pas encore la partie principale de mes recherches, mais certainement que je vais faire appel de plus en plus à ce genre de choses.
Très bien. Mais merci beaucoup, Monsieur Tessier. Alors, en introduction de cette émission, je vous avais promis une petite surprise. Et donc, la voilà.
Mère solitaire, guérison certaine par les globules d'Agnapuge, à l'extrait vert de rhizome frais de fougère, mâle des Vosges, de secrétant, phéochromocytome, lauréat médaillé, le seul remède infaillible employé avec succès constant dans les hôpitaux de Paris. Pas d'un succès possible. Secrétant, pharmacien 37 avenue Friland de Paris. Prendre bonne note de l'adresse. Cette annonce ne devrait paraître que peu de fois.
Voilà, c'était un spot publicitaire. Alors, ce spot publicitaire, il a été réalisé à partir d'une réclame ancienne. Alors, je tiens à remercier Christophe de Radio Bartas qui l'a réalisé. Et donc, une réclame ancienne parce qu'en effet, dans la presse, bien sûr, il y avait également ce qu'on appelait à l'époque de la réclame et non pas de la publicité. Et donc, sur le site de la LR2L, on retrouve ces réclames anciennes et ça vaut son pesant de cacahuète pour parler familièrement. Voilà pour cette petite surprise. Donc, maintenant, nous allons écouter un reportage qui a été réalisé par Ludo de 48 FM. Et donc, je le laisse prendre la parole pour nous le présenter.
Voilà, justement, tu parlais de réclames, des feuilletons, c'est ce qu'on a retrouvé au sein des archives en feuilletant ces journaux anciens de Lozère. La venue d'une classe d'Hélène Talagrand, une professeure d'histoire du collège du Blémar, qui est venue visiter les archives départementales et voir cette exposition proposée par LR2L, et également donc feuilleter ces journaux anciens et s'étonner de ces réclames qui revenaient à chaque page pour vendre des spiritueux ou autres réclames qu'on retrouve pas de nos jours. Également ces feuilletons, ils ne savaient pas ce que c'était le feuilleton. On va découvrir un peu cette visite, on va les suivre pendant à peu près 6 minutes lors de cette visite de l'exposition et de cette presse ancienne.
La presse ancienne révélée, reportage.
Alors, il y a une chose que je vais préciser tout de même, c'est que vous êtes dans un bâtiment où il y a des gens qui travaillent, non seulement les gens qui travaillent aux archives, mais aussi les gens qui viennent travailler aux archives. Donc, je vous demanderai, au fur et à mesure de la visite, d'être calme, et découvrir la presse ancienne et découvrir également des documents d'archives anciens qui remontent au XIe siècle. Je vous laisse faire les groupes.
Le mois dernier, une vingtaine d'élèves de 4e du collège Henri Rouvière au Blémar est venue découvrir les archives départementales de la Lozère. 8 km d'archives qui sont répertoriées dans les plus petites archives départementales de France. Mais comme partout ailleurs, l'heure est à la numérisation. Dans le cas du partenariat avec Livre et Lecture Languedoc-Roussillon, la structure a numérisé les journaux anciens avec le Journal de la Lozère et le Courrier de la Lozère. Plusieurs dizaines de milliers de pages, plusieurs centaines de journaux. Benoît Léguedé, directeur des archives départementales de la Lozère.
On a choisi de faire porter l'effort ces dernières années sur justement la presse ancienne. La presse ancienne présente la caractéristique d'être un support très fragile en raison, un, de la consultation fréquente des documents et deuxièmement aussi en raison de la mauvaise qualité du support. Le papier journal, de manière générale, est un papier de mauvaise qualité et donc se détériore très vite. On numérise, pas simplement pour numériser, mais aussi pour les mettre en ligne. Et donc de les donner en consultation au plus grand nombre possible, non pas simplement aux quelques lecteurs lozériens qui viennent au salon de lecture, mais aux lecteurs du monde entier. L'intérêt, c'est à la fois de conserver les collections originales, qui sont très fragiles, et de diffuser au plus grand nombre.
Et la classe d'Hélène Talagrand, enseignante d'histoire, a travaillé sur les articles de presse avant de se rendre sur place.
En fait, on a travaillé en milieu d'année sur le thème de la Révolution française à partir de cahiers de doléances qui étaient sortis des archives. Puis petit à petit dans l'année, on a travaillé aussi sur la presse. Ils ont travaillé dernièrement lors de l'affaire Dreyfus sur la presse de l'époque, les caricatures, voilà, pro et anti. Et du coup, il nous semblait logique de terminer par les archives. Ben, en ce moment, justement, depuis un an, ils ont une vision assez faussée. Quand on leur a demandé qu'est-ce que c'était la presse pour eux, ils ont de suite dit Charlie Hebdo, le canard enchaîné. Pour eux, maintenant, la presse, c'est dénoncer, c'est les caricatures. C'est vrai que c'est aussi l'aspect que l'on donne à la presse, nous, en cours. Quand on s'en sert comme outil, comme appui, c'est souvent un article, une illustration pour montrer quelque chose, pour dénoncer quelque chose. Après, de là, ce que ce soit source d'information, c'est beaucoup plus difficile. On va dire que l'autre partie, c'est plus l'information aux médias que nous, on leur donne en disant attention à ce que l'on dit à la télé, à ce que l'on lit. Et puis, c'est surtout leur nouveau média, eux, Facebook, etc. Donc, arriver à faire la part des choses entre information et désinformation.
Mais chez Germinal, je crois que c'est moi de la Révolution.
Alors si les élèves ne sont pas toujours au point au niveau des dates, les découvertes sont là.
Et donc c'est qui avait fait un calendrier comme ça avec
les... Non.
Au Moyen-Âge.
Oh là là,
c'est trop grave.
Il y avait un article.
La prière du soldat.
Les vapeurs aspirantes, les Allemands inventent de nouveaux procédés barbares. Et ils informaient les gens. Quoi.
Alors, Bisson, sergent au 23e bataillon de chasseurs, première compagnie, s'est distingué depuis le début de la campagne, placé au cours de l'attaque de Richtengroff sur un point parti. Clairement menacé, a résisté énergiquement à toutes les contre-attaques et a été blessé en repoussant à la baïonnette une fraction ennemie qui allait sauter dans la tranchée.
Il commençait déjà à faire des pubs, des soins beauté pour les femmes et tout, mais moi je pensais pas que ça existait en 1900. Dessiné par la main. Je pensais que ça existait, mais comme de nos jours des produits de grand-mère, par exemple des œufs pour les cheveux ou un truc comme ça.
Voilà, là on est en 1901 et regardez là, ça c'est vraiment des réclames, ce qu'on appelait des réclames. On ne parlait pas de publicité à l'époque. Hein.
Ça, ça revient souvent. Dans chaque page, quasiment, il y a quelque chose comme ça. Ouais. C'est des pubs pour les apéritifs liqueurs. C'est les premières marques du monde.
Pour les enfants, faisaient des loteries pour des enfants tuberculeux.
Et les élèves ont aussi découvert la censure.
Il y a la censure.
Ah, très bien. Supprimée par qui ?
Par monsieur le préfet.
Qui représente qui ?
Oui, la France.
La France ? Oui, quand tu veux dire la France, tu veux dire qu'il représente
l'État.
Donc pourquoi, à ton avis, il a été censuré ?
Parce qu'il dénonçait des faits.
L'année ?
1915.
Donc est-ce qu'il pouvait raconter cet article qui ne plaisait pas au préfet ?
C'est pendant la guerre et que... Par exemple, que c'est les Allemands, c'était des... Enfin, qu'il y avait des bons Allemands et tout.
D'accord, il pourrait avoir un discours pro-allemand, mais ça peut être quoi d'autre ?
Que la France...
Mon Dieu, on est en train de subir une contre-attaque, on est en train de perdre. Est-ce que le préfet, il laisserait dire ça ? Bah non, parce que les gens, ils ne mobiliseraient pas.
Mais ils veulent qu'on croie qu'on gagne.
Pour qu'ils y aillent à la guerre.
Anaëlle a trouvé étonnant le nombre de sources répertoriées au sein des archives.
Les journaux, pour moi, c'était un peu récent, on va dire. Donc, je trouve ça extraordinaire qu'au fil des ans, en fait, on retrouve tout, qu'on puisse tout répertorier, tous ces journaux, et que dans notre région, il y a autant de, de sources à répertorier. Je trouve ça énorme.
Et ce sera encore mieux numérisé.
Bah oui, ça pourra aider, puis ça évite de se déplacer, si on habite loin et tout, de venir aux archives, voilà. Puis sur Internet, ça c'est bien. Comme ça, tout le monde peut le voir, même si il y en a qui ne sont pas de Lozère, ils peuvent faire même le voir, donc c'est intéressant aussi pour ceux qui ne sont pas d'ici, quoi.
Ouais, c'est plus facile à accéder, on va dire. Du coup, moi, je trouve ça bien qu'on puisse tous voir, même si on n'habite pas forcément à côté des archives, quoi. En tant qu'adolescent, je pense que oui, on préfère forcément les ordinateurs, tout ce qui est technologie. Mais moi, personnellement, je préfère ce qui est sur papier. Parce que je préfère ce qui est sur papier, voilà.
Eh bien, nous poursuivons donc notre émission sur la presse ancienne, sa numérisation et sa valorisation. Et nous recevons maintenant deux personnes qui sont au service éducatif des archives. Christine Juge, tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Et Yannick Pépin, donc vous êtes également professeur d'histoire à Saint-Chély d'Apcher, c'est ça ?
Bonjour, oui, c'est ça.
Alors, Madame Juge, vous pouvez rebondir sur le reportage qu'on vient d'entendre et puis peut-être nous parler des actions du service éducatif des archives.
Oui, volontiers. Alors, d'une part, je tiens à préciser que Yannick est le pilote du service en tant qu'enseignant, mais que nous sommes deux personnes aux archives à travailler en relation avec lui, moi-même, mais aussi Béatrice Maury, je tiens à la citer, elle n'est pas présente, mais c'est nous qui sommes chargés d'accueillir les classes lors des ateliers que Yannick met en place afin de faire découvrir aux enfants la presse ancienne, bien sûr, mais l'ensemble des archives, et également de leur faire découvrir les expositions que nous mettons en place chaque année.
Ce qui n'est pas toujours facile, ils sont des fois turbulents. On a pu le voir, on l'entend pas, mais on a pu le voir. Vous faites souvent des visites des archives comme ça auprès de classes
Oui, assez régulièrement, puisque je pense qu'on peut dire qu'on accueille, c'est variable d'une année sur l'autre, mais on accueille environ 400 enfants chaque année, la plupart du primaire, collège, lycée, mais également des étudiants. Et même une année, on a accueilli des enfants de grande section de maternelle autour d'une exposition qu'on avait faite sur les couleurs de la Lozère.
Alors Yannick Pépin, est-ce que vous pouvez nous dire comment on se sert des archives numériques ou des archives de façon générale comme d'un outil pédagogique ?
Mais tout d'abord, la presse et les journaux ont un intérêt documentaire pour le professeur. C'est finalement un instantané d'une période, d'un état d'esprit. Et en cela, ça peut tout simplement illustrer le cours et permettre aux élèves aussi d'appréhender une période. Puisque vous parliez des sources numérisées, il est bien évident que, de la même manière que le disait tout à l'heure Monsieur Tessier, l'un des avantages de la numérisation, c'est justement de pouvoir consulter ces sources sans avoir forcément à se déplacer avec une classe entière aux archives départementales, ce qui est possible, mais qui n'est pas forcément toujours très pratique et qui est chronophage. Donc ça permet aussi aux enseignants de travailler à partir de leur établissement scolaire, ou même aux élèves de consulter ces sources de chez eux. Ça, c'est un très, très gros avantage. L'autre avantage, c'est de pouvoir, grâce à l'autorisation, de pouvoir faire des recherches beaucoup plus rapides. Faire des recherches documentaires sur la presse écrite directement à partir des archives départementales, en soi, c'était quand même assez long. C'est-à-dire que trouver directement l'article qui est intéressant et qui peut être exploité en classe, c'était quelque chose qui n'était pas évident, on va dire, de manière générale.
Également, est-ce que c'est peut-être plus ludique pour les enfants de leur faire passer des messages, des cours, des enseignements en leur montrant ben, à l'époque comment on parlait d'un événement? Est-ce que c'est plus facile pour vous finalement de vous appuyer sur cette presse ancienne pour donner vos cours?
Oui, parce qu'en fait, finalement, surtout quand elle est numérisée, tout à l'heure, je vous félicite, vous avez réussi à trouver un élève qui préférait le format papier au format numérique. C'est pas évident du tout, hein, vous avez dû chercher longtemps. Effectivement, les élèves, finalement, sont plus habitués à faire des recherches sur Internet. Voilà, et il est bien évident que l'abord est plus facile pour eux. C'est-à-dire, par exemple, un moteur de recherche, finalement, c'est quelque chose qu'ils savent utiliser. Voilà. Par contre, un registre papier, c'est beaucoup moins évident pour eux. Donc oui, il y a un intérêt. Puis l'autre intérêt, il est également, on va dire, civique. C'est que nous devons faire également une éducation aux médias. Et lorsqu'on travaille sur la presse ancienne, je pense par exemple à la presse durant la Première Guerre mondiale, il est bien évident qu'on va pouvoir également intégrer certaines notions, la censure, la propagande, et développer chez eux également un esprit critique. Il est bien évident que la presse ne dit pas toujours la vérité, d'accord. La presse parfois se trompait aussi. Je pensais justement à votre reportage où Hélène Talagrand parle de l'affaire Dreyfus. Il est bien évident que la presse en 1894 se trompe. Voilà. Et donc, ça peut permettre également des études comparatives entre, par exemple, la presse en 1894 et la presse en 1906 à la fin de l'affaire Dreyfus, où on voit qu'il y a finalement un basculement de l'opinion publique et de la presse. Dernier point, je ne vais pas être trop long. L'autre intérêt également, c'est de montrer que les médias, et la presse en particulier, sont à la fois des témoins de l'histoire, mais également des acteurs de l'histoire. On va rester sur l'affaire Dreyfus. Lorsque Émile Zola publie son J'accuse dans le journal L'Aurore, il est bien évident que là, la presse devient tout d'un coup acteur de l'événement. Voilà. Donc, il y a aussi cet intérêt-là auprès des élèves, c'est leur montrer toutes les dimensions des médias de manière très générale.
Vous êtes professeur d'histoire. Est-ce que ce sont plutôt, enfin, quelles sont les matières qui peuvent être intéressées par ces recherches dans la presse ancienne? Est-ce que ça peut concerner toutes les matières, tous les professeurs?
Oui, ça peut bien évidemment être très vaste. Donc, bien sûr, l'histoire-géographie, l'enseignement moral et civique, anciennement éducation civique. Bien évidemment, les professeurs de lettres, travailler tout simplement sur un texte. Ça peut être éventuellement les professeurs d'art plastique lorsqu'on fait un travail sur les caricatures. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait eu une exposition aux archives départementales sur les dessins aux archives, où une partie des dessins était issue justement de la presse. Et puis, depuis que les ressources sont numérisées, ça peut être éventuellement, par exemple, le professeur de technologie qui a également en charge tout ce qui est nouvelle technologie et qui va éventuellement aider les élèves dans leurs recherches documentaires. J'en oublie sûrement, mais bon, on va dire que là...
Madame Juge, donc vous qui accueillez les classes, est-ce que justement dans les classes, par exemple, de collège ou de lycée, est-ce que vous remarquez une prépondérance de certains professeurs, de certaines matières, ou est-ce que c'est plutôt général?
Disons que, d'une manière générale, ce sont quand même plutôt des enseignants d'histoire qui s'adressent aux archives départementales. Mais on a également travaillé avec un professeur de lettres sur la reconstitution d'un assassinat, d'un crime qui avait été commis à Mende et jugé. Donc, on avait donc, avec une classe de seconde, reconstitué dans les rues de Mende cette affaire.
Et comment réagissent de façon générale, alors peut-être la question est à tous les deux, les jeunes, les enfants ou les adolescents, sur ce type d'action, de visite des archives, de travail là-dessus, quelles sont leurs réactions?
Alors, on a d'excellentes réactions. Je vais parler d'un atelier que Yannick a conçu. C'est la chasse au trésor. En fait, on s'est rendu compte que pour les enfants du primaire, notamment de la grande, pas grande section du cycle 3, la visite des archives telles qu'on peut la faire avec des adultes ou des élèves plus grands était trop difficile et trop austère. Donc Yannick a conçu cette chasse au trésor qui permet en fait de découvrir les archives et le travail que l'on y fait, mais de manière ludique. Ça marche très très fort.
Et on sait qu'on va vers une numérisation des établissements scolaires. Il y en a eu d'ailleurs à Saint-Chély. Je ne sais pas si c'est le collège du Haut-Gévaudan ou un autre établissement. Vous, de pouvoir retrouver toute cette numérisation et avec ces tableaux interactifs, ça doit être vraiment un plus pour vous en tant qu'enseignant ?
Oui, parce que tout simplement, actuellement, pour ce qui concerne mon établissement scolaire, toutes les salles de classe sont équipées d'un vidéoprojecteur ou d'un tableau blanc interactif. Ce qui fait que on peut multiplier finalement les documents en classe. On peut éventuellement modifier son cours en instantané, c'est-à-dire que une question d'un élève peut éventuellement nous faire dériver sur un document auquel on n'avait pas pensé premièrement, et donc il suffit finalement de se connecter à Internet, c'est assez rapide, et on peut trouver rapidement par exemple une image. Moi, ça m'arrive fréquemment d'aller chercher des images sur le réseau auquel j'avais pas pensé dans un premier temps.
C'est que du bonus.
C'est que du bonus. Puis ça permet finalement d'avoir une multiplication des sources. On n'est plus uniquement avec le manuel. Voilà, d'ailleurs, le manuel est de moins en moins utilisé. D'ailleurs.
Et peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a des classes qui vont venir visiter l'exposition donc, qui commence aujourd'hui jusqu'à fin juin vous...
Alors, je pense que là, c'est assez compliqué en ce qui concerne les élèves parce que le mois de juin est très chargé, que c'est la période des sorties scolaires. Mais on peut espérer, bien sûr, quand même être contacté par des enseignants pour venir visiter la partie de l'exposition qui se trouve aux archives.
Mais merci beaucoup à tous les deux de vos explications. Donc, eh bien, on va terminer cette émission avec en redisant, bien entendu, que cette exposition, donc la presse ancienne révélée, elle a commencé donc mercredi 1er juin et elle dure jusqu'au jeudi 30 juin. Il y en a une partie de l'exposition qui est aux archives départementales et l'autre partie à la bibliothèque municipale de Mende. On peut les faire dans les deux sens ? Il y a une première partie, une deuxième partie ou non?
Je pense que c'est indifférent. Les gens peuvent venir aux archives et partir ensuite à la bibliothèque municipale ou l'inverse. Pas de problème.
D'accord. Je voulais remercier donc également Marie de Palais et puis eh bien Madame Jebelin qui a fait la lecture. Marie de Palais donc eh bien a dédicacé son dernier livre donc le 8 juin à 18h à la bibliothèque, son dernier livre que je vais citer qui est Le Temps des Aubépines qui est paru aux éditions de Boré. Vous rappelez également les sites sur lesquels vous pouvez trouver toutes les informations dont on vous a parlé aujourd'hui. Alors il y a deux sites. Il y a un site, on va appeler ça grand public, où vous pouvez retrouver un certain nombre d'archives et surtout les feuilletons, les réclames que je vous conseille. Ce site, c'est le site des Chroniques du Midi.
Voilà, et en ce qui concerne tous les journaux, cette numérisation de 700 000 pages de presse ancienne, c'est sur culture.cr-languedoc-roussillon.fr, culture.cr-languedoc-roussillon.fr.
Voilà, je remercie encore bien sûr tous les participants à cette table ronde et à cette émission, tout particulièrement Madame Chaz, qui est présidente de Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, d'être venue jusqu'à Mende dans cette belle journée ensoleillée. Alors on vous annonce également qu'il y aura un prochain plateau, toujours sur ce même sujet, qui aura lieu à la médiathèque de Carcassonne, et ce sera le 8 septembre. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Ludo ?
Pas plus, je remercie également Guy Saleil de la Bibliothèque municipale de Mende qui a travaillé avec nous sur cette émission et tous les acteurs concernés.